Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Nous allons ouvrir la Bible dans un passage dans le livre des Actes des Apôtres. Cela fait suite, livre de l'Évangile, et nous allons considérer un texte qui va entretenir notre réflexion ce soir. Alors, je le rappelle, livre des Actes, chapitre 1er, versets 6 à 8. Je vais lire et puis nous apporterons un commentaire et ensuite nous parcourrons différents textes du Nouveau Testament et pour construire un peu notre réflexion, notre méditation ce soir. Alors, Actes chapitre 1er, verset 6. C'est après la résurrection de Jésus, les apôtres sont réunis tous ensemble et il est dit ceci au verset 6. Alors, les apôtres réunis demandèrent à Jésus, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Jésus leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. J'aimerais justement prendre en considération cette réponse que Jésus va donner à ses disciples du moment, quand ils vont lui poser la question, mais quand est-ce que tu vas rétablir finalement l'ordre, la justice, la paix dans ce monde? Et Jésus va leur dire, eh bien, ça ne vous appartient pas de savoir le temps et le moment. Et il y a 2000 ans que les choses sont passées, il y a 2000 ans que cette question a été posée, et aujourd'hui nous sommes toujours dans l'attente d'un rétablissement. Et nous voyons et nous constatons, hélas, que le monde va de mal en pis. Lorsque nous considérons, l'état de notre société d'abord, de notre monde, des guerres, des famines, des migrations, c'est tout à fait à l'ordre du jour, des gens qui souffrent de mille manières. Alors nous pouvons dire et nous pouvons soupirer peut-être, mais quand est-ce que viendra la paix? Et quand est-ce que viendra, ce retour que Jésus nous a promis, venu une première fois pour accomplir la volonté de Dieu et offrir le salut aux hommes, et venir une seconde fois pour véritablement emmener avec lui, ces rachetés, ceux qui ont placé leur confiance dans le salut en Jésus-Christ. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce que Jésus va répondre. Il dira, mais ne cherchez pas à savoir. Mais moi, je voudrais vous dire que vous allez recevoir une puissance. Cette puissance, c'est celle de l'Esprit de Dieu, celle de l'Esprit qui descend vers les hommes, et qui est une puissance de joie, une puissance de paix, une puissance envers et contre tous les circonstances extérieures qui sont profondément mauvaises et désespérantes, eh bien vous allez cela avoir en vous, à l'intérieur de vous-même, il y aura ce souffle de l'esprit qui envers et contre tout, par tout ce que pourrez voir et vivre, eh bien ne vous abandonnerez pas, ne vous délaissera pas, une puissance de Saint-Esprit qui va survenir sur vous. Et à ce moment-là, vous serez mes témoins. Témoins dans la ville de Jérusalem, là où Jésus a été crucifié. Témoins également dans toute la Judée, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, jusque dans la Samarie, c'est-à-dire déjà le territoire du monde païen, et jusqu'aux extrémités de la terre. Il a fallu 2000 ans pour qu'aujourd'hui nous constations qu'à travers tous les moyens d'hier et d'aujourd'hui, l'évangile de Jésus-Christ est apporté et prêché, et des hommes par milliers, par centaines de milliers, se rallient à la foi que Jésus nous a laissée à travers cette bonne nouvelle de l'Évangile. Vous serez mes témoins. Et s'il y a un témoignage à rendre, c'est un témoignage à Jésus-Christ. Non pas à une religion, qu'elle soit d'une appellation ou d'une autre, mais à Jésus. Jésus, le roi des rois et son royaume, c'est-à-dire celui que Jésus appelle le royaume de Dieu, tout simplement, qui vient dans nos cœurs. Alors, on pourrait dire qu'à partir de ce moment-là, les apôtres de l'époque ont été dotés de quelque chose. Ils ont reçu cette puissance, ils ont reçu cette autorité, ils ont reçu cette connaissance. Et Jésus leur demande de ne pas s'inquiéter des temps et des moments, mais d'être finalement, ses ambassadeurs, à travers les temps, à travers les siècles, dans toutes les sociétés diverses. J'aimerais intituler notre réflexion ce soir, je lui donnerai un titre si vous voulez bien, on va revenir à ce titre en permanence, c'est « Passeurs de vie ». Vous recevrez une puissance. Ce n'est pas une puissance de mort, comme nous l'avons vu ces derniers jours, où là, et vous savez ce qui s'est passé naturellement, où on a répandu la mort, où dans le monde entier, il y a des hommes et des femmes qui répandent la mort d'une manière ou d'une autre. La guerre ici, la guerre par là, à travers toutes sortes de choses qui s'enflamment et qui répandent finalement la désolation et le désespoir. Vous serez des passeurs de vie. Et nous sommes, nous, en tant que disciples de Jésus-Christ dans notre monde moderne, des passeurs de vie. Parce que le Seigneur nous a dit que nous ne partirions qu'équipés, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez à ce moment-là mes témoins. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un témoin ? C'est celui qui parle. C'est celui qui atteste des choses parce qu'il en est le témoin oculaire, c'est-à-dire qu'il les a vues. Et il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il peut dire aux autres, parce que finalement il l'a vécu lui-même, témoin oculaire, parce que bien sûr, il sait ce dont il est question et il le sait parfaitement. Un passeur de vie, figurez-vous, un passeur de vie, ou les passeurs de vie si vous voulez, on peut le mettre au pluriel, rendent témoignage à. Ils ne rendent pas témoignage à une congrégation, comme le centre évangélique, comme l'église protestante par exemple, ou une autre finalement dénomination. Ils rendent témoignage à celui qui les a mandatés, celui qui leur a promis la puissance, celui qui leur a dit qu'ils seraient revêtus de l'Esprit de Dieu, à travers naturellement, cette rencontre qu'ils ont faite à Jésus. Donc, rendent témoignage à Jésus. Le but, parce que nous savons tous que nous recevons de nos parents et nous le donnons à nos enfants. Nous sommes en quelque sorte, là, d'une manière transitoire sur la terre. Alors il y a des gens qui ne peuvent rien donner parce qu'ils n'ont rien reçu. Maintenant nous avons tous quelque chose, d'une manière ou d'une autre, que nous pouvons passer, communiquer. Nous sommes témoins, nous sommes des ambassadeurs, dont le roi de ce royaume c'est Jésus, et sa parole, et sa puissance, et ce qu'il a fait pour nous, et ce qu'il peut faire aussi pour les autres, auxquels nous rendons témoignage. Donc le but c'est de communiquer une bonne nouvelle. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, depuis une quinzaine de jours, mais même c'est pas seulement par ces derniers événements, mais tous les jours, on entend des mauvaises nouvelles. C'est vrai, d'une manière ou d'une autre, que ce soit le chômage qui augmente, que ce soit même la météo est désastreuse en ce moment. Une météo a attrapé la grippe, si on peut dire. Alors, communiquer une bonne nouvelle, ça c'est important. Et puis, c'est dévoiler. Finalement, dévoiler des secrets. Parce que, on s'aperçoit que, dans la société dans laquelle on est, il y a beaucoup d'informations qui nous arrivent. Et il y a beaucoup de choses. Alors, on parle, on se noie dans toutes sortes de parlottes, excusez-moi l'expression. Les informations nous viennent en boucle, on n'en sort plus, à finir à être complètement ivre de tout ce que nous entendons. Mais là, il s'agit de dévoiler des secrets. Pas les secrets des hommes, mais les secrets de Dieu, qui apporte de bonnes nouvelles, dans un monde où il y en a tellement de mauvaises. Le but également, des passeurs de vie, c'est de transmettre un héritage. Parce que nous avons reçu quelque chose de précieux, nous sommes comme des vases d'argile et nous portons un trésor, que Jésus-Christ est notre sauveur. Que Jésus-Christ, finalement, est le meilleur de tous les amis. Comme nous l'avons chanté, mon seul ami ou mon seul abri, c'est Jésus. Et c'est pour annoncer que le Seigneur, il est vivant. Nous ne prions pas un Dieu qui serait mort sur une croix il y a 2000 ans, mais nous prions et nous annonçons un Dieu qui est mort pour nos péchés, mais qui est ressuscité pour que nous puissions avoir la vie par la foi. C'est ça les passeurs de vie. C'est ce que nous sommes. Et figurez-vous que Jésus a donné un ordre solennel à ses disciples quelque temps auparavant dans la Bible. Et il nous est dit précisément, et nous voulons nous en souvenir et nous le rappeler, à travers tout simplement ce passage que nous connaissons bien, parce que le passeur de vie, c'est cela, c'est tout simplement un message solennel pour tous les hommes. Et lorsque nous ouvrons, par exemple, l'évangile de Marc, je cite les textes comme cela, tout simplement, et il est dit ceci, « Puis Jésus dit à ses disciples, c'est là, pardon, au verset 50, que je retrouve, non, je suis pas dans le bon livre, voilà, Marc, chapitre 16, il est dit cette parole, « Puis il leur dit, allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » C'est pas Dieu qui le condamne, mais c'est son incrédulité qui va le condamner. On est bien d'accord, on n'accuse pas Dieu. Dieu nous a offert la possibilité de croire ou de pas croire. Il respecte la liberté de chacun. Maintenant, il appartient, nous, d'ouvrir notre cœur ou de le fermer, de dire oui à Dieu, de lui répondre d'une manière favorable, d'une manière positive, ou de lui dire « moi ça ne m'intéresse pas ». Donc, la première chose, passeur de vie, c'est tout simplement d'aller. D'aller, et on n'a pas besoin d'aller aux extrémités de la terre, mais d'aller vers ceux qui souffrent autour de nous. Peut-être vers nos parents, notre famille, vers ceux qui sont peut-être nos compagnons de travail et que nous voyons désespérés. Allez vers eux. Allez et parlez-leur. Vous êtes des passeurs de vie à ce moment-là. Allez par tout le monde. Vous prêchez la bonne nouvelle, pas votre nouvelle à vous. Pas vos conceptions religieuses à vous, mais ce que Jésus nous a laissé à toute la création. Et voilà que la conclusion, c'est celle-ci. Si l'on vous croit, on croira Dieu, parce que vous êtes ses porte-paroles, vous êtes ses ambassadeurs. Alors, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il n'est nullement question d'un baptême d'enfant, parce qu'on s'adresse à des adultes. Là, il est question d'adultes. Et puis, dans la suite de ce récit, il est dit, mais au verset 20, ils s'en allèrent partout prêcher, donc ils ont cru. Et ils ont obéi, conséquence de leur foi. Et le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Nous ne sommes pas abandonnés, nous ne sommes pas seuls, nous sommes des passeurs de vie qui parlons, qui disons de Dieu, qui disons cette bonne nouvelle de Jésus-Christ, et voilà que Dieu va confirmer tout simplement sa parole, parce qu'au préalable, Jésus dira à ses disciples, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Vous retrouverez dans le texte le détail, mais pour nous montrer que la parole de Dieu est crédibilisée, la parole prêchée, la parole annoncée, proclamée et crédibilisée par ce que Dieu fait pour la confirmer par des signes, des miracles et des prodiges. Et c'est ce qui s'est passé dans l'histoire de l'Église primitive, et c'est ce qui se passe encore aujourd'hui si dans son intégralité, nous croyons que ce que Dieu nous dit, c'est vrai. À ce moment-là, nous voyons les choses se réaliser. C'est ça la bonne nouvelle. Et avec cet héritage, avec ce bagage dont nous parlions tout à l'heure, eh bien nous devenons des passeurs de vie. Et les temps ne sont pas révolus, parce que Dieu appelle encore des hommes et des femmes, chacun d'entre nous, pour que nous puissions dire à ce monde qui pleure, à ce monde dans la détresse, à ce monde qui souffre, eh bien qu'il y a une espérance dans ce monde. C'est terrible de voir le désespoir des hommes. On l'a vu encore aujourd'hui dans ces cérémonies laïques, où là nous voyons une immense tristesse. Quelque chose de terrible, le respect bien sûr, la déférence, tout cela. Mais moi ce que j'ai ressenti c'est qu'il y avait une absence d'espérance. Le mot n'a même pas été prononcé. Le mot espoir n'a pas été prononcé. Vous allez me dire, c'était une cérémonie laïque. D'accord. Mais c'est pour montrer que l'homme sans Dieu, l'homme qui refuse finalement cette espérance en Jésus-Christ, ne peut être que comme cela. Puisque finalement il n'y a pas de perspective, il n'y a pas d'horizon, il n'y a rien d'autre que la terre. Et c'est terrible. Passeur d'espérance. Parce que Jésus-Christ, tout simplement Jésus-Christ est vivant. Et il nous fait passer de cette simple création mortelle, parce que toute la création de Dieu est mortelle, on le voit l'automne, tout va mourir pour renaître, naturellement. Ça, c'est un miracle de la nature. Principe de vie que Dieu a jeté finalement et bien sur cette humanité et puis sur cette création, mais de passer de cette création mortelle à une création qui retrouve la vie, c'est-à-dire ce qu'on appelle la rédemption. Et c'est ça pourquoi nous sommes des passeurs de vie. C'est en cela que nous sommes des passeurs de vie. Passeurs de vie, et semeur d'espérance, nous dit également la Bible. Nous avons ce beau texte de l'apôtre Paul, enfin cet événement dans la vie de Paul, au chapitre livre des Actes, au chapitre 18 et au verset 9. Il y a cette parole où nous avons finalement, eh bien, Dieu adresse un appel à Paul pour devenir un passeur de vie. Alors il l'aura été de plusieurs manières, Paul. Il l'aura été parce qu'il a écrit ce qu'on appelle les épîtres des lettres. Il nous a traduit pas mal de choses. Et puis il y a également à travers ce que finalement il a vécu, ce qu'il a dit, parce que il était un homme qui s'est distingué par une prédication forte, une prédication d'espérance. On l'a souligné, passeur et semeur d'espérance dans les vies, dans les cœurs. Et un jour il s'est trouvé dans la ville de Corinthe, Paul. Et là Dieu lui a révélé sa mission. Il lui a parlé et il nous est simplement au verset 9, il est dit ceci: « Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle, et ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Vous savez ce que Dieu nous donne pour pouvoir être équipés et devenir des passeurs de vie? Il nous a donné quelque chose qui est le propre de tous les hommes, mais qui est particulièrement marqué par, eh bien, le christianisme et notre foi en Jésus-Christ, c'est la parole. Ce soir, qu'est-ce que l'on fait? Vous attendiez pas peut-être qu'à ce qu'il y ait une démonstration théâtrale, ou de la chorégraphie, ou toutes sortes de choses semblables. Nous nous réunissons dans cette église, dans cette salle, pour parler. Et nous parlons de qui? Nous parlons de Jésus, nous parlons de sa grâce, nous parlons de son pardon, nous parlons de son amour, et il n'y a rien d'autre que ce rapport, finalement, de ce que nous savons, de ce que nous connaissons et de ce que nous lisons. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il a été amené dans la ville de Corinthe, qui était une ville où il y avait énormément de corruption, hein, elle était réputée pour cela, Dieu lui dit, bien, j'ai un peuple nombreux, mais il faut que tu parles. Et chacun d'entre nous, si nous voulons être des passeurs de vie, il nous faut parler, dire ce que nous savons, dire qu'il y a de l'espérance dans un monde où on dit que tout est, finalement, eh bien, là, moribond. Ne te tais point, dira Dieu, dira Jésus à Paul, ne te tais point. Et je crois que l'Église a besoin de ne pas se taire. Elle n'a pas besoin de garder la lumière sous le boisseau. Elle a besoin de parler, pas à tort et à travers, pas de prosélytisme, pas d'exaltation, mais de dire ce que nous savons. Parle, parce que j'ai un peuple nombreux. Et vous savez, dans cette ville de Saint-Nazaire et partout ailleurs, moi, je suis convaincu qu'il y a des hommes et des femmes qui sont beaucoup plus nombreux qu'on ne l'imaginerait, et que ce sont des hommes et des femmes qui attendent que nous soyons auprès d'eux des passeurs de vie. La preuve, puisque l'Église se renouvelle en permanence, à travers tous les temps. Et l'apôtre Paul, eh bien, va devenir finalement un semeur d'espérance. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc, annonçons, proclamons, disons. Et ça, c'est quelque chose qui est notre mission. Confessez. Et c'est ce même apôtre qui écrira, par exemple, dans une autre lettre, il dira, j'ai cru, c'est pour ça que j'ai parlé. Alors, si chacun d'entre nous, nous avons cru en Jésus-Christ, maintenant, nous devons faire comme Paul. Nous avons à parler. Nous avons à dire ce que nous savons, finalement, de Jésus. La parole. Parler. La Bible et le Nouveau Testament nous dit que c'est une semence. Oui, la parole est une semence. C'est elle qui germe dans les cœurs. C'est elle qui redonne l'espoir. C'est elle qui, eh bien, la éclaire dans les ténèbres, dans notre monde de ténèbres. Et à ce titre, j'aimerais simplement laisser à votre réflexion cette parole que nous trouvons dans le prologue de l'Évangile de Jean au chapitre 1er, il nous est dit, je rapporte, hein, au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Il n'y a pas de divergence. Il n'y a qu'une unité en cela. Il n'y a qu'une cohésion parfaite. Au commencement était la parole et elle était Dieu. Et écoutez bien, en elle était la vie. Et c'est parce que nous sommes des passeurs de vie qui parlons que nous communiquons la foi qui donne la vie, tout simplement. Ça, c'est essentiel. Parler, parole de vie, ou parole de la vie. C'est encore bien la chose que nous est soulignée dans le Nouveau Testament et particulièrement dans les citations que je viens de vous faire. Passeur de vie c'est un maillon d'une chaîne, d'une grande chaîne, d'une chaîne infinie, d'une chaîne sans fin, maillon d'une chaîne, ou si vous voulez, on peut le comparer à une tache d'huile qui tombe et qui se répand. Vous avez remarqué, l'huile, c'est quelque chose de très pénétrant et quelque chose qui se répand, hein, de tous les côtés. Et nous avons justement cette belle histoire, et dans l'évangile de Jean, au chapitre premier, on va rester toujours dans ce grand chapitre premier, où là, eh bien, nous avons finalement, eh bien, l'image de ce que peut être notre tâche de passeur de vie, notre mission de passeur de vie. Écoutez, je vais prendre les textes très vite comme cela. Au chapitre premier, Jean au premier, verset 35, Jean le Baptiste, était là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voici l'agneau de Dieu. Les deux autres disciples entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Je vais un peu plus loin, verset 40. André, frère de Simon-Pierre, était l'un de ceux qui avaient entendu la parole de Jean, parce que Jean avait parlé, et il avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, il parle, et il le conduisit vers Jésus. Verset 43. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée, il rencontra Philippe, et Jésus lui a dit, suis-moi. Verset 45, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit, etc. Vous avez remarqué un petit peu cette tache d'huile? Ou tout simplement, eh bien, ce maillon de cette grande chaîne où chacun va avoir sa place, où chacun va être un communicateur, va être, comme on l'a dit, un passeur de vie. Il y a Jean-Baptiste qui va se faire entendre auprès de deux de ses premiers disciples. Un de ses premiers disciples va le dire à un ami qui s'appelle André. André va le dire à son frère qui s'appelle Simon. Simon va le dire à Philippe, qui lui-même va le dire à Nathanaël, passeur de vie, dans cette longue chaîne merveilleuse, pour arriver à cette finalité où là, Nathanaël dira, mais moi, je ne crois que ce que je vois. Et Philippe va lui dire, viens et vois. Viens et vois. Parce que, on peut dire, mais ce que l'on dit, parce que c'est la vérité, c'est l'authenticité de la parole de Dieu, c'est quelque chose qui se vérifie par l'expérience. Viens et vois. Nous ne sommes pas arrivés dans cette salle parce que finalement nous avons une révélation du ciel, nous avons vu finalement, eh bien, là, où nous avons entendu une voix. Non, c'est parce qu'on nous a parlé de Jésus un jour. Parce qu'on nous a offert une Bible, que nous avons lu la Bible, que nous sommes peut-être venus dans une réunion semblable à celle-ci et que nous avons entendu parce que quelqu'un nous a dit, parce que quelqu'un a été le passeur pour notre vie, passeur de ce message. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et nous vous disons, pour ceux qui sont peut-être à nous rallier dans nos réunions, je voudrais vous dire, viens et vois. Tu jugeras si c'est l'authenticité ou si c'est du cinéma. Tu jugeras toi-même par ta vie avec tes problèmes, avec tes douleurs, avec tes désespérances, si véritablement notre Dieu que nous annonçons, c'est un Dieu qui est mort ou un Dieu vivant. C'est pour ça que nous sommes convaincus. C'est pour ça que nous avons cru et que nous avons parlé. Comme dira naturellement, eh bien, Paul. Viens et vois. Passeur de vie, dont le mobile est la curiosité. Écoutez. Dans l'évangile de Jean, toujours au chapitre 12, il nous est donné également encore un propos qui peut être très intéressant, et vous allez le comprendre tout de suite. La curiosité de certains hommes qui voulaient, Jean 12, verset 20, quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête à Jérusalem, s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André. On se retrouve toujours dans la même configuration. Il alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Passeur de vie également. Les Grecs qui étaient montés à Jérusalem étaient venus pour adorer le Dieu d'Israël dans le temple de Jérusalem. Et ayant appris ce petit rassemblement que constituaient ces quelques hommes, 12 hommes qui suivaient un prophète, qui suivaient ce que certains juifs appelaient le Messie d'Israël. Alors, ils ne sont pas allés voir Jésus directement, ils sont passés par les passeurs de vie, si vous permettez. André et Philippe, et Philippe et André sont venus dire à Jésus, « Tu sais, il y a des étrangers qui voudraient te parler, qui voudraient avoir un entretien avec toi, qui voudraient te voir, peut-être pour certains, qui voudraient que tu pries pour eux. » Passeurs de vie. Alors que sont devenus ces Grecs, je ne sais pas, mais moi je crois que c'était peut-être certainement les prémices d'une grande mission qui est survenue probablement plus tard. Passeurs de vie d'un véritable amour. Oui. Et témoignage de la vérité. Si je vous parle de la Samaritaine, est-ce que ce n'était pas une femme qui a communiqué la vie autour d'elle? Et pourtant, une femme de petite moralité, certainement coutumière d'une vie qui était entachée d'immoralité, de toutes sortes de choses qui se cachaient, qui était certainement décriée par tous ses voisins, par tous les habitants de ce village près du puits de Jacob à Sichar. Comme quoi Dieu va chercher des gens qu'on n'aurait jamais été chercher nous-mêmes, hein, aller chercher une prostituée pour parler d'évangile, pour en faire finalement, eh bien, passeur de vie, cette Samaritaine. On va le retrouver, par exemple, dans Jean, chapitre 4. C'est un fameux message que nous avons à travers, eh bien, le témoignage de cette femme. Parce qu'elle va produire la vérité, elle va annoncer la vérité à des gens qui ne l'ont jamais entendu, à des gens qui étaient à 10 000, finalement, de s'intéresser d'abord au peuple juif, aux prophéties d'Israël, et encore moins à cet homme qui allait de lieu en lieu, qui était finalement, eh bien, là, un prédicateur de cette petite bourgade, de ce trou perdu, qui était tout simplement, eh bien, là, Nazareth en Galilée. On n'y faisait pas attention à cela. Et pourtant, elle va avoir une mission extraordinaire, la Samaritaine. Au chapitre 4 et au verset 25, « Après que Jésus lui ait révélé sa vie, et qu'il ne l'a pas condamnée, qu'il lui a dit « t'es une femme mauvaise, alors à ce moment-là tu es perdue », c'est pas ce que Jésus lui dit. Il lui donne de l'espoir en disant « mais si tu crois, eh bien des fleuves d'eau vive couleront de ton sein jusque dans la vie éternelle ». Il lui annonce le salut, naturellement. Et après avoir entendu cela, cette femme va être complètement bouleversée dans sa conscience. Et elle va découvrir que dans cet homme qui lui parle, ce juif que l'on n'aime pas, ces juifs que l'on n'aime pas dans ce juif-là, elle va découvrir qu'il y a un autre message beaucoup plus grand que le message religieux, que de sa religion, ou que même de la religion des juifs. Et Jésus lui dira tout simplement, la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ, et quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Ça, c'est un véritable bouleversement pour cette femme. Elle va entendre, elle va comprendre par les révélations que Jésus lui fait que c'est véritablement le Messie pour les Juifs et c'est le Sauveur du monde. Et là, elle va en être convaincue, elle va être complètement bouleversée. Ça va être une véritable révolution à l'intérieur d'elle-même. Mais elle va pas en rester là. Elle aurait pu dire, je le garde pour moi, je me tais. Et quand on va un peu plus loin, on va s'apercevoir au verset 39, et je voudrais quand même le rapporter. Il nous est dit, mais plusieurs des Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la déclaration de la femme, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent trouver Jésus, ils le prièrent de rester auprès d'eux, et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole, et ils dirent à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Viens et vois. Viens et crois. Ce soir, je ne sais pas comment vous pouvez recevoir ce message. Peu importe, n'écoutez pas l'homme qui parle, mais écoutez le message que l'homme donne. Et ce message, c'est véritablement le message qui nous parle de Jésus et de son royaume, et qui est venu, comme auprès de la Samaritaine, comme auprès des autres, pour nous dire, viens et vois. Viens et crois. Et nous voyons que cette femme a été véritablement une ambassadrice du royaume de Dieu. Elle a été, je le mets au masculin, mais un passeur de vie. Tout son village, finalement, a entendu parler de Jésus. Lorsque nous ouvrons le livre des Actes des Apôtres, quelques temps plus tard, il y a eu un grand réveil à Samarie, dans le village de cette femme, où là, un homme qui n'est pas le même que le premier, qui s'appelle Philippe, et qui, lui, va venir, va annoncer Jésus et son royaume, Jésus et sa parole, Et il va y avoir des miracles, des signes, toutes sortes de choses. Et il nous est dit qu'il y a eu un grand réveil à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que Jésus était venu, il avait parlé à cette femme avait parlé à tous ses coreligionnaires ou tout simplement tous ses compatriotes, et le travail était préparé. C'est pour ça que Jésus, dans le même texte, dira « Mais regardez les champs blancs pour la moisson ». Et Jésus avait déjà entrevu qu'il y aurait finalement un souffle de l'esprit, parce que Jésus avait trouvé dans cette femme un passeur de vie. Tout simplement. Elle a parlé, et les choses se sont, eh bien, manifestées plus tard. Et puis je voudrais terminer à travers un ou deux exemples, tout simplement. Elle était un passeur de vie, cette Samaritaine, passeur de vérité. Il y a un beau témoignage de passeur de vie et de liberté que je voudrais placer devant vous aujourd'hui. Je dis bien de vie et de liberté. Et je pense particulièrement au Gadarénien libéré. Vous connaissez l'histoire du Gadarénien. C'est quelque chose, hein? Un homme qui était fou. Un homme qui était un dément. Un homme qu'aujourd'hui on mettrait dans un asile psychiatrique tellement il était désarticulé, on peut dire. À l'intérieur de lui-même et même à l'extérieur de lui-même, il vivait dans les sépulcres. Toutes ses aspirations étaient tirées vers la mort. C'était un grand dépressif, c'était un schizophrène, on pourrait dire. Et cet homme est venu vers Jésus. Jésus l'a délivré d'une manière extraordinaire et formidable. Et dans Luc, lorsque nous ouvrons ce qui nous est simplement rapporté de lui, au chapitre 8 de Luc, il nous est simplement rappelé cette petite phrase qui est très importante, me semble-t-il, et je voudrais la relire. Il nous est dit, par exemple, au verset 38, « L'homme de qui étaient sortis les démons, hein, il était diabolisé cet homme. » Vous pourrez lire avant ce qui s'était passé, vous pourrez lire aussi dans quelles conditions Jésus l'a trouvé et lui a redonné le bon sens. Il nous est dit « L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui. » Un homme qui est délivré, un homme qui est guéri, un homme qui a véritablement et bien maintenant une autre vie, parce que Jésus l'a délivré. Mais Jésus le renvoya en disant « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que le Seigneur t'a fait. » Et il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Voilà un beau passeur de vie. Il aurait pu dire « Maintenant, tu m'as délivré d'une telle folie, d'une telle mort. » Alors moi je voudrais rester tous les jours de ma vie avec toi. Jésus lui dit non. Tu retournes dans ton pays, tu retournes dans ta ville. Et comme tout le monde te connaît, ils vont voir la différence maintenant entre un homme qui est complètement perdu dans sa folie, dans sa démence, et quelqu'un qui est redevenu dans son bon sens comme un homme normal. C'est parce que tu as vécu, ce que tu as vécu toi, ce que maintenant tu sais, eh bien tu vas le dire à tout le monde que c'est Jésus qui délivre. Que c'est Jésus qui fait tomber les chaînes. C'est lui qui est capable de nous donner, de nous faire passer de la mort à la vie. Du désespoir à l'espérance. Retourne et dis. Retourne et parle. Parce que il nous est dit qu'il s'en alla et publia dans toute la ville tout ce que Jésus avait pour lui. Voilà. Passeur de vie. Qu'est-ce que nous sommes et à quoi nous sommes-nous destinés? C'est qu'avec le simple témoignage ou peut-être le plus modeste des témoignages que nous avons les uns et les autres, Dieu nous appelle à être des passeurs de vie. Cette église doit être dans cette région, eh bien, un passeur de vie. Où il y a tant de désespérance et tant de gens qui sont profondément malheureux. Eh oui. Parce qu'on se souvient de cette parole prophétique du prophète Ésaïe, me semble-t-il, où Jésus reprendra lorsqu'il donnera la primeur de son message à Nazareth. « Je suis venu pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer les captifs et délivrer tous ceux qui sont opprimés. » Eh oui, autant cette parole pouvait s'adresser à la Samaritaine, passeur de vie, « Je suis venu pour guérir les cœurs brisés », parce que c'était son cas à elle, hein, cœur brisé. Mais là, le Gadarénien eh bien, était un homme qui pouvait dire ensuite, « Moi, le message que je veux faire passer, c'est parce que j'étais opprimé sous les liens de l'occultisme, de la magie, de toutes ces choses qui sont abominables, mais le Seigneur m'en a délivré, et je suis libre maintenant. » Et je termine. Passeur de vie, qui nous parle de la gratuité, ce qu'on appelle la grâce. Parce que dans le mot grâce, il y a un mot gratuit. Sans aucun mérite, nous recevons, nous donnons, et c'est Dieu qui nous fait le cadeau. Passeur de vie et de gratuité, c'est Pierre et Jean quand ils arrivent à la belle porte du temple. Dans le livre des Actes, je vous fais tourner des pages, mais je pense que ce que je dis, je ne veux pas le tirer d'autre chose que de la Bible, parce que c'est elle qui nous enseigne. Et je pense que si je dois passer quelque chose, c'est au moins vous passer la vérité de ce qui nous est écrit dans la Bible, dans la parole de Dieu. Écoutez, il y a Jean et Pierre qui montent au temple de Jérusalem pour prier. Et voilà que, au chapitre 3 de ce livre des Actes, il nous est dit cette parole, rencontrant un homme qui était boiteux de naissance. Et cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et lui dit « Regarde-nous !» Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Et au verset 6, écoutez bien, « Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Ouais. Passeur de vie pour dire à tous ceux qui sont malheureux que tout est gratuit, que tout est grâce et qu'il n'y a rien à payer avec Dieu. Ça change de la religion, il faut tout payer, hein. Je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Et ce que je vais te donner, c'est un nom. C'est pas le nom d'une religion, catholique, protestante, tout ce que vous voudrez, mais c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus, parce que le nom de Jésus est le nom qui guérit, le nom qui rétablit, le nom qui sauve, le nom qui pardonne, le nom qui accomplit tout ce dont nous avons besoin. Passeur de vie, pour parler, pour le dire. Et je conclurai simplement sur cette simple parole, parce que c'est pour nous cette parole, pour que nous comprenions que nous avons été sauvés pour servir, que nous avons été sauvés non pas pour garder ce que nous avons, mais pour le dire. Passeur de vie, Ésaïe chapitre 50, verset 4, simplement. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée. Il n'y a pas de muet hein, parmi nous, non? Non? Oui? Pas de muet. Enfin, vous avez vu que, en tous les cas, vous avez constaté que je suis pas muet, hein. Quelquefois, on me dit que je parle de trop, mais bon. Alors, il nous a donné à chacun une langue exercée. Pourquoi notre langue est-elle exercée? Pour dire des insanités? Pour faire du mal aux autres? Pour médire? Pour maudire? Non. Il nous a donné une langue exercée pour que nous puissions, par notre langue, devenir des passeurs de vie avec des paroles de vie, des paroles de bénédiction, de délivrance et de grâce. Oui, une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Écoutez, nous sommes dans un monde, si vous me dites qu'il y a personne qui ne se décourage jamais, que tout va finalement pour le meilleur, alors que tout autour de nous, nous constatons qu'il y a tellement de misère, tellement de désespoir, à tel point, comme nous en parlions dernièrement, qu'il y a des gens qui ne peuvent plus soutenir cette vie. Et qui, quelquefois, au bout du bout, nous pourrions dire, veulent mettre un terme parce que les situations sont tellement insupportables et intolérables telles que la souffrance, en finissent avec eux-mêmes. Non. Dieu m'a donné une langue exercée pour dire, pour parler, pour annoncer et pour soutenir par la parole celui qui est abattu. Alors, je pense que nous avons vraiment du travail. On peut dire qu'il y a du pain sur la planche, hein. Et savez-vous, et sachez encore ce soir que nous sommes des passeurs de vie. On aurait pu prendre d'autres textes dans la Bible, mais je pense qu'on pouvait y rester jusqu'à demain matin. Mais c'est pour dire qu'il y a quelque chose. Parce que cette parole, comme nous l'avons dit, la parole au commencement était Dieu. Il nous est dit qu'en elle était la vie. Notre parole doit être une parole de bénédiction, une parole de salut, une parole de pardon. Une parole qui parle aux hommes de l'éternité avec lui, avec Dieu. Que Dieu nous bénisse ce soir. Nous allons prier quelques instants. Nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que il y a des choses comme ça que nous avons besoin de comprendre. Et c'est une mission que nous devons accomplir. Ta parole, Seigneur, nous dit, allez par tout le monde. Un monde malheureux, un monde désespéré, un monde de guerre et de sang et de feu. Allez par tout le monde. Et annoncer la bonne nouvelle, et cela jusqu'aux extrémités de la terre. celui qui croira sera sauvé. Seigneur, nous voulons véritablement dire qu'une simple foi, eh bien, Seigneur, peut amener vraiment le bonheur, la paix. Amener, Seigneur, ce que les hommes cherchent tant, mais en dehors de toi. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier. Merci pour les passeurs de vie que nous avons vus, Seigneur, à travers l'Écriture sainte ce soir. Et merci, Seigneur, parce que nous croyons que cette longue chaîne, où chacun d'entre nous, nous sommes des maillons, eh bien, nous pouvons véritablement, Seigneur, dire autour de nous tout ce que le Seigneur a fait pour nous, pour moi. Et merci, Seigneur, parce que nous voulons, Seigneur, te remercier pour les encouragements que tu donnes. Et nous voulons te remercier aussi, Seigneur, pour ceux qui croient à ces encouragements, que Jésus est vivant, que Jésus, Seigneur, en effet est ressuscité, et nous nous adressons à un Dieu qui véritablement écoute nos prières, écoute les cris, écoute la détresse des hommes, et est venu pour nous délivrer et pour les sauver. Merci Jésus. Amen. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.